Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours!
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
RLP. La bonne question.
Bonjour au Périgord, et le bas aussi d'ailleurs, parce que tout le Périgord est concerné. Vous êtes sur RLP dans La bonne question, avec aujourd'hui une invitée, Violette Folgado, qui va représenter le Parti communiste, parce qu'aujourd'hui c'est une émission sur le Parti communiste en France. Donc Violette Folgado, je te présente rapidement, militante communiste, élue locale, présidente de Dordogne-Palestine et militante féministe. Est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose ?
Non, c'est déjà, ça va.
C'est
va,
lancé
merci.
Comme ça. Donc toujours accompagné de Stéphane, mon acolyte.
Bonjour et, à toutes et à tous.
Aujourd'hui, Simon à la technique. Nous allons commencer donc cette émission. Stéphane, son petit regard satirique, sans trop de violence, j'espère.
J'ai essayé, je me suis retenu. Définir le communisme en 5 minutes est une opération impossible. C'est pourquoi j'ai préféré me concentrer sur le PC français et tenter de définir le communisme à la française en le comparant au socialisme à la française. Une analyse succincte pourrait nous faire croire un parti réformiste, le PS, et un parti révolutionnaire, le PC, mais il n'en est rien. Le Parti communiste français n'est pas un parti révolutionnaire, bien au contraire. Il n'a jamais tenté de conquérir le pouvoir par la force. Parti de gouvernement à la libération, puis à de multiples reprises sous la 5ème République. Alors comment définir ce parti? Si on le compare au PS, sa structuration tourne autour d'un axe majeur, le centralisme démocratique. Bel oxymore. Alors qu'au PS, il n'est question que de courant et de motion de synthèse. En interne, le PS est plus bruyant et le PC plus discipliné. Autre particularité du PCF, c'est de péché originel. Lors du congrès de Tours en 1920, ce qui deviendra le PCF a fait acte de soumission aux soviets en adhérant à la Troisième Internationale. Et cela aura des répercussions considérables sur sa politique. Du pacte Molotov-Ribbentrop à Fabien Roussel se prenant les pieds dans le tapis à propos de Staline, en passant par l'acceptation de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et le bilan globalement positif de Georges Marchais, le PCF a suivi de manière disciplinée les pas de l'URSS jusqu'à l'effondrement de celle-ci. Après cette lourde charge, il convient aussi, pour équilibrer la balance, de regarder ce que le PCF a apporté à la vie politique française. Le PC, c'est le parti de la résistance, après le début de l'opération Barbarossa tout de même, celui des 75 000 fusillés et celui de Missak Manouchian. À la libération, c'est le ministre communiste Ambroise Croizat qui fut à l'origine de la sécurité sociale. Le PCF va aussi prendre clairement parti pour le mouvement décolonial, là où la SFIO sera plus qu'ambiguë. De très nombreuses municipalités de la région parisienne, la Ceinture Rouge, sont gérées par des maires communistes de manière très pragmatique. Le communisme à l'échelle communale est une réussite majeure. Enfin, dans ces temps troubles que nous vivons, le PCF n'a pas répondu au chant des sirènes du wokisme, de l'indigénisme et autres turpitudes des temps modernes. Il possède toujours la laïcité chevillée au corps. Alors pour conclure, le communisme en France, un bilan globalement positif ?
Merci, merci. Il y a quelques pics, mais bon, merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Je voudrais dire que je ne suis pas historienne, donc mon regard est celui d'une militante de plus d'un demi-siècle. Alors sur ce que vous venez de dire, le communisme à la française.
Oui, je te voyais réagir beaucoup.
Oui, oui, oui. Je crois qu'effectivement, lors de congrès de Tours, c'était le congrès de la SFIO.
Oui.
Et la majorité, donc une très grande majorité, a voté pour la scission et pour créer la section française de l'international, le SFIC, de l'international communiste. et très vite après, pour qui est devenu le Parti communiste français. La Dordogne, d'ailleurs, à l'unanimité, est allée à Tours pour dire qu'il fallait cette scission parce qu'il y avait le comportement collaborationniste, comme c'est le mot que tu employais concernant la SFIO, concernant la Première Guerre mondiale. Sur communiste par révolutionnaire, moi je pense que du fait que l'on propose de changer la société, les fondements même de la société, du capitalisme, parce qu'il faut dire le nom, aujourd'hui on dit libéralisme, il y a le fond de libéralisme, il y a liberté, et il y a des libertés que pour les uns, c'est-à-dire ceux qui ont le fric. Et aujourd'hui c'est un capitalisme débridé, je pense que proposer, comme tu l'as dit, sans violence, pas par le bouillonnement d'idées, c'est une solution qui vient en contradiction de la société.
Bah, disons, pour une personne qui n'est pas historienne, tu es déjà bien partie. Est-ce qu'on va se faire un petit reset pour revenir au départ, pour le mettre dans l'ordre, en fait, pour nos auditeurs. C'est bien si on le met dans l'ordre. Toi, tu dates à quand la naissance du communisme français ?
En tant que parti, 1920. Mais en tant qu'idée révolutionnaire, bien avant. Parce qu'effectivement, je pense que nous sommes les descendants de 1789, de 1830, de 1848, parce qu'il y a aussi les choses. Et puis la Commune de Paris, des milliers de morts.
Ah ben, Thiers a fait un véritable massacre.
Voilà, tout à fait.
Oui,
voilà.
Et grâce aux Bretons. Si tu... Je le dis comme ça, ça leur fait du bien. si tu devais résumer en 3 ou 4 dates importantes le parcours du Parti communiste en France. Bon, t'as commencé...
Moi, je crois... Alors, 3-4 dates...
Les plus importantes.
Les plus importantes. Moi, je pense que c'est le rôle qu'a joué le Parti communiste avant 36, pour amener 36, le Front populaire.
Et oui, pourquoi 45, tu...
Oui, pardon. Enfin, 39-45, ouais, hein, ouais. C'est le rôle des communistes. Dès 40... puisqu'il y a eu quand même la montée du fascisme, etc., les brigades d'extrême droite, hein, qui ont en 34 en France...
C'est février 34.
Oui, ouais, février 34, quand même voulu aller jusqu'à l'Assemblée nationale, hein, enfin des choses comme ça. 45, c'est 44 d'ailleurs. La proposition de loi, l'amendement de Fernand Grenier, 44... pour le vote des femmes. On dit souvent, De Gaulle a donné le vote des femmes, sauf que l'amendement, c'était de Fernand Grenier, député communiste. Ouais. Et ça a été tout le temps. Et en parlant des femmes, qui est une partie aussi de ma vie, je voulais dire que le Parti communiste français a présenté en 1925 des femmes aux élections municipales, que des femmes ont été élues et qu'elles ont été révoquées par les préfets de l'époque.
Ah oui ? Est-ce que tu as un nom à nous donner ?
Ça, je ne l'ai pas recherché, mais par contre, on peut le rechercher.
C'est pour ma propre culture.
Voilà. Mais nous avons eu à la Libération une femme membre du Conseil, qui est le Sénat, aujourd'hui on a Marie-Claude Varias, mais une femme du Conseil dont j'ai là aussi raté le nom, oublié le nom. Mais quand elle a été élue, je lui dis, bah, t'es au moins la deuxième femme de Dordogne à avoir investi le Sénat.
Ok, 36, 44. Est-ce qu'il y en aurait deux autres, au moins?
Tu le daterais quand l'abandon du centralisme
démocratique? Je ne sais pas si ce n'est pas 76, 77, 78, quelque chose comme ça, il me semble.
Donc sous Georges Marchais, alors?
Oui, c'était sous Georges Marchais, tout D'accord. à fait. Oui, oui. Le fait que le programme commun ait été signé en 72 et que le Parti socialiste n'a pas voulu la réactualisation en 78. Et moi, je voudrais revenir, mais moi, je vais dire 81, c'est dans une... Pourquoi? Pourquoi 81 ? Parce que 4 minutes communistes.
Si on avait à référencer des lieux du communisme en France.
J'allais dire partout, mais la Dordogne. Mais la Dordogne, ouais. On a eu quand même...
Mais est-ce qu'il n'y a pas des lieux références ? La CGT avec la Bourse du Travail, par exemple. Oui. Tu vois, c'est des lieux qui référencent... En fait, l'entité de départ.
Il y a une chose que j'ai citée, c'est la ceinture rouge. Moi qui suis d'origine parisienne, qui ai vécu à Paris, en région parisienne pendant, toi aussi, hein, pendant des années, toute notre jeunesse et tout ça. C'était vraiment, la ceinture rouge, c'était
c'est un lieu référencé, la Courneuve avec la fête de l'Huma. Mais tu vois, il y a des lieux comme ça. Est-ce que toi, tu en as comme ça en tête, des lieux référencés?
Moi, la ville communiste dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps de ma vie, c'est Saint-Léon-sur-Lille.
Ouais.
J'y ai vécu de l'âge de 3 ans. J'en suis partie peut-être quelques temps, mais je l'ai quittée définitivement, je pense, en 1995 pour venir à Razac, hein, sur l'île. Donc, cet apport Saint-Léon-sur-l'île, je vais le dire, le maire, c'était Yves Marois. Il a créé la première crèche en milieu rural de France, la première maison de retraite associative en milieu rural de France. Et moi qui travaillais à l'époque à Bata, à Neuvic-sur-l'Île, et mes collègues de travail qui habitaient Périgueux, qui habitaient, venaient amener leurs enfants à la crèche à Saint-Léon-sur-l'Île. Et puis, bien sûr, Saint-Léon-sur-l'Île, c'est aussi un certain nombre de cités qu'on avait dit, des cités ouvrières, on avait eu le scandale, mais qui a permis à des salariés, qu'ils soient cheminots, qu'ils soient gaziers, qu'ils soient travaillés dans les usines, etc., de pouvoir accéder à la propriété. C'était des choses intéressantes, c'était du communisme.
Est-ce que tu as un autre lieu ? Toi, Stéphane, est-ce que tu... à des lieux en tête
du communisme, la Courneuve, hein, pour la fête de l'UMA.
Ça, oui, mais vraiment, bien sûr, ça aussi.
Que c'est, alors, c'est très politique et en même temps apolitique. Je m'explique, je ne suis pas communiste, je suis plutôt de tendance de gauche, mais pas communiste. Mais j'y allais avec des copains et tout, et il y a le côté festif. Il y avait des gens même de droite qui allaient faire la fête. C'était... et puis, d'un autre côté, c'était aussi très, très politique, parce qu'il y avait des discussions partout.
Il y a des débats partout, effectivement.
Et c'est vrai que moi, n'étant pas communiste, ça m'a fait mal au cœur, à titre personnel, hein, pas idéologique, de savoir que vous aviez déménagé, parce que, voilà.
Moi aussi, ça m'a fait... ça a été mes premières fêtes de l'UMA. Oui. Hein,
historiquement, ça a marqué des générations.
Encore.
La fête de l'UMA, c'était the place to be. Hein,
d'accord. On va partir sur une petite pause musicale, avec un petit morceau de Eugène Potier, qui s'appelle L'International, que vous connaissez peut-être.
Ça, c'est un truc qui marchera pas.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur en dégorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.
De retour sur RLP, donc sur la bonne question, avec notre invitée Violette.
RLP.
Est-ce que tu pourrais nous dire, en termes de pratique, qu'est-ce que le Parti communiste a amené au pays, en fait ? En termes de pratique de tous les jours, de ce qu'on vit tous les jours.
La sécurité sociale, mais...
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ?
La section d'entreprise, la section syndicale d'entreprise, les représentants du personnel. Moi, l'apport des communistes, ça a été... on a parlé souvent de la banlieue rouge, mais les centres publics de santé, où les familles allaient dans un centre public de santé et ne payaient pas. Ne payez pas la consultation était prise en compte dans leur globalité. Aujourd'hui, ça revient. Un des responsables des centres de santé de la Fédération nationale des centres de santé, qui s'appelle Éric May, je l'ai appelé un jour. J'ai dit, écoute, Saint-Léon-sur-l'Île, nous avions 3 médecins. On n'en a plus. Comment on peut faire ? Il dit, je viens, on peut créer un centre public de santé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'apport d'argent. C'est le ticket modérateur. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et les personnels soignants, médecins ou autres, sont des salariés de la collectivité. Mais c'est ce qu'il nous faut. Et une première pierre d'un centre de santé de la communauté de communes va être posée, la première pierre, au mois d'avril, je crois.
Est-ce qu'il y a d'autres traces ?
Dans la culture.
La culture.
L'empreinte laissée par les communistes dans la culture est énorme.
Le monde intellectuel, enfin la majeure partie du monde intellectuel était communiste.
Mais qui reste aujourd'hui, qu'on va avoir aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, je pensais au système de répartition.
La sécurité sociale, l'ensemble du système de répartition. La retraite. Quand aujourd'hui on dit que les soins coûtent cher, c'est pas vrai. Les soins, on se les paie. Ce qui coûte cher, c'est les exonérations de cotisations des grands patronats. C'est ça qui coûte cher. C'est pas les salaires qui coûtent cher, c'est le capital qui coûte cher. À partir de, je sais pas, 7, 8 ou 10 fois le SMIC, on devrait supprimer tout ce qu'il gagne. Parce qu'avec 10 fois le SMIC, on peut quand même bien vivre. C'est ce que disait Georges Marchais.
Et puis ça me fait penser à une des questions que j'avais préparée, qui était, est-ce que le gouvernement actuel, il utilise... des restes de l'héritage des communistes. Est-ce que Macron, aujourd'hui, bénéficie ou il utilise ?
Aujourd'hui, Macron casse tout ce qui reste de l'héritage. Il y avait d'autres gouvernements avant lui. Moi, je pense... aujourd'hui, on a saucissonné la SNCF pour mieux la privatiser. Ils se battent, les cheminots. Aujourd'hui, c'est l'hôpital public. Pourquoi casse-t-il l'hôpital public ? Pourquoi il n'y a pas les moyens pour le donner au privé ? Et la sécurité sociale, c'est pareil. Les indemnités chômeurs, on veut sa troisième réforme qu'il veut mettre. C'est quoi ? C'est pour que les gens ne choisissent pas. On leur offre sur un plateau un emploi de merde avec un salaire de merde. C'est ça qu'ils veulent.
Et la vie qui va avec.
Et la vie de merde qui va avec.
Et dans l'histoire du communisme, est-ce qu'il y a des personnages qui sont clés pour un auditeur ou une auditrice, s'ils voulaient faire des recherches un peu sur les pensées du communiste ? Est-ce qu'il y a des personnages phares ?
J'en ai donné quelques-unes qui n'étaient pas français. Karl Marx, Lénine, Engels. Et puis on pourrait monter un certain nombre de la Révolution française. Mais moi, après...
Et en France ?
En France...
T'as parlé de Georges Marchais, ou Krasucki.
Oui, nous avons des intellectuels de haut niveau. Nous avons eu des philosophes de haut niveau.
Et qui Lucien a marqué Sèvres.
Lucien Sèvres. Nous avons des économistes de haut niveau, Paul Bocara.
Mais des gens au sein du parti qui ont marqué le parti au point de le fonder.
Jacques Duclos, l'histoire des pigeons. Il y a eu des choses comme ça.
Je crois que c'est ce type de personnage-là.
Et moi, j'adhère au Parti communiste quand Jacques Duclos est venu à la salle Omnisport du Toulon en 1972.
Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnages comme Duclos qui ont effectivement été fondateurs de certaines pensées ? Est-ce que
après,
toi, tu
c'est,
vois...
c'est beaucoup de pensées collectives. Hein. Moi, je,
Mais il y a quand même des tracteurs, tu vois. Si... Là, tu as cité Marché tout à l'heure, c'est un tracteur.
Oui,
même s'il y a un boulot
fait.
Collectif derrière, c'est quand même...
Un que je ne citerai pas, c'est Robert Hue. Lui, c'était un réacteur. C'est pas la même chose.
Ouais.
Voilà.
Ah oui.
Voilà. Mais
qu'est-ce qu'on entend par réacteur ?
Ah, je pense que le fait qu'il ait, comment dirais-je, on avait une organisation. Cellule locale, cellule d'entreprise, section, etc. Puis il a dit à un moment donné, les cellules d'entreprise, les cellules locales non plus, on va faire des grands trucs, etc. Et aujourd'hui, ça nous manque.
D'accord.
Aujourd'hui, ça nous manque, et parce que c'était des points d'appui, c'était
des points de pression aussi.
Des points de pression, et ça manque aujourd'hui.
Ouais, ouais,
pour
vrai.
Aller, vous savez où il est allé, on ne sait même pas où il est aujourd'hui. Voilà. Non, mais je pense qu'aussi.
À la pêche.
Voilà, dans le Lot. Voilà, mais il nous faut là-dessus, voilà, alors des noms qui marquent. Moi, j'ai bien aimé Marie-Georges Buffet. J'ai milité avec elle, j'avais une responsabilité quand j'étais permanente du Parti communiste, parce que j'étais pendant 20 ans quand même. J'ai été responsable de la section féministe et je montais à la place du colonel Fabien, puis c'était elle qui était responsable donc des droits des femmes à l'époque. Voilà.
Quand on parle du marquage, en quoi le communisme m'a marqué, par exemple, c'est d'avoir la place du colonel Fabien, l'immeuble, il a été fait par... Niemeyer. Oscar Niemeyer. Il n'y a pas un parti en France qui a quelque chose d'aussi remarquable. Enfin, d'aussi. C'est un des lieux. Et il l'a fait avec une conviction politique derrière.
Tout à fait.
Pas pour le pognon, mais parce qu'il avait un engagement politique. Il y avait le TNP, par exemple, le Théâtre National Populaire. Tu avais des acteurs qui étaient très proches du Parti communiste, comme il s'appelait le. Qui est mort bien trop jeune.
Gérard Philippe,
par exemple. Voilà, tout ce monde-là, c'était une époque bénie hein,
mais,
de la
mais
culture.
Mais Avignon, bien sûr. C'est grâce aux communistes.
Oui, oui.
Voilà. Et je dirais même, au départ, le Festival de Cannes. Puisque c'était pour en contradiction, pas ce qu'il est devenu, pas en contradiction avec la Mostra de Venise. Mmh. C'était donné également, je bouge beaucoup. Je suis du Sud.
Voilà. Pour ça, Gérard Philippe, il a écrit une chanson qui s'appelle Octobre.
Ah bon?
Ouais. Quand il est mort, le livre de son épouse Anne-Philippe est magnifique. Voilà.
D'accord. Alors, est-ce que le Parti communiste a des liens avec d'autres partis ? Est-ce que, de temps en temps, il y a des alliances qui se font pour tel et tel profit ou tel et tel bénéfice ? Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres mouvements politiques ?
De tout temps, il y a toujours eu cette envie de rassembler au maximum...
Et même ceux qui ne veulent pas.
Voilà, au maximum les gens. Il faut quand même se rappeler que 36... même si nous, les communistes, n'ont pas participé au gouvernement, c'est 86 organisations différentes. Partis politiques, organisations syndicales, à l'époque, c'était deux.
Avec quel autre mouvement ? Est-ce que tu pourrais les citer ?
Après, les associations...
Sans que ce soit
C'était le Parti Socialiste, à l'époque. Il y avait le Parti Socialiste. Léon Blum, c'était le Parti Socialiste. Et d'autres organisations, comme ça. À la Libération, pareil.
Est-ce qu'il y a eu déjà des coalitions, des cohabitations sur des communes ?
Sur des communes, à chaque fois, on a essayé d'élargir... Avec les Verts, etc. Oui, il y a eu quand même le Front de Gauche, il y a eu...
pas le Front National,
malgré
que des fois, il y a des points communs.
Mais vous savez que dans la résistance... Il y a plusieurs organisations, dont le Front National, mais c'était le Front National résistant, communiste. C'est pas... Le problème, c'est que comme, à l'époque, on ne mettait pas le label, aujourd'hui...
les droits dessus.
On n'avait pas mis de droits dessus, ils l'ont pris. Mais c'est comme l'Union des femmes françaises, quand c'est devenu Femmes solidaires, il y a marqué toujours que c'est issu de l'Union des femmes françaises pour garder le nom.
Voilà. Tu disais, oui, tu es d'accord avec quand il a dit que le PC n'avait pas assez
Oui, tout
réagi.
À fait. Et moi, je pense qu'effectivement, en délaissant le secteur, les entreprises, et également localement, je pense qu'on a aujourd'hui on essaie de mais on a pris du retard sur ces questions-là. Et effectivement, ça vient pas tout seul. La casse des entreprises. Moi, je viens de j'ai travaillé à 16 ans chez Bata. La casse de Bata, c'est les années 80. C'est quand même sous la présidence de Mitterrand. La dégringolade également des, de toute l'industrie du tissage dans le Nord. Si on prend toutes les industries qu'il y avait chez nous. Et alors, il y a Mitterrand, mais tout c'est quand même sous l'égide de l'Union européenne, tout ça. Hein. Il faut serrer...
D'ailleurs, est-ce que tu penses, toi, que les communistes ont eu une place ou une implication ou un rôle ou un impact sur la création de l'Europe ? Est-ce que tu penses que ça s'est fait au détriment du parti ? Ou est-ce qu'ils ont été...
Non, ça on ne nous a pas demandé notre avis à la création. Il faut dire qu'il a fallu batailler de l'autre lutte pour qu'il y ait des élections européennes.
L'Europe, elle a été créée surtout contre les soviétiques au départ. Donc c'est sûr que ça mettait en porte-à-faux les communistes à cette époque-là. On est en pleine guerre froide à ce moment-là.
Tout à fait. On est en pleine guerre froide. Qu'aujourd'hui, traiter un certain nombre... Tu as parlé tout à l'heure de la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Hein. Effectivement, le Parti communiste a soutenu l'invasion de la Hongrie en 1956, mais pas celui de la Tchécoslovaquie en 1968. C'était... Voilà. Donc,
Tu es responsable de l'histoire aujourd'hui.
Qui dit mot consent.
mais je ne suis pas forcément... Mais je prends tout ça, parce que c'était la guerre froide. Mais moi, j'assume. Je ne fais pas comme certains qui, pour ne pas assumer l'histoire, changent de nom. Moi, je me suis battue, quand c'est venu en débat de congrès, de changer le nom de Parti communiste. Moi, en tant que... Je leur ai dit non. Moi, je ne veux pas être une ex-communiste. Je suis communiste. Et quand je vois que certains changent de nom comme de chaussettes, hein, ça passe... le RN.
Oui.
Le RN, c'est du Front National, il vient RN.
Et moi, mes petits-enfants... Mais c'est un peu différent, hein, parce que quand tu regardes le parcours de Papa Le Pen, qui était très libéral, Marion Maréchal ressemble plus économiquement à Papa Le Pen que...
Oui, mais c'est tout la même, gangrène.
Lui, c'est très ethnicisé, Papa Le Pen, mais c'est un libéral. Hein,
Mais attendez, Papa Le Pen, libéral, tortionnaire.
Ah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Torsionnaire quand même, parce que...
Pinochet était un libéral au Chili, économiquement parlant. Tu peux avoir un État libéral économique pire répressif, la Chine.
La France.
Hein.
Pas gilet jaune.
Mais moi j'y suis allé sur les ronds-points. Alors quand ils me disent, quand ils m'ont dit, mais t'avais ta part de gilet jaune, je dis non, moi je suis communiste, moi j'ai pas de gilet jaune, mais je partage un certain nombre de choses. Je suis pour, vous dites sans les partis politiques, mais sans les partis politiques, vous n'arriverez à rien. La preuve, c'est que. Voilà. Donc, le problème, c'est ça. La démocratie aujourd'hui, la démocratie en France, mais c'est ailleurs, c'est les partis politiques. Oui. Si vous ne faites pas de politique, la politique va vers vous et elle s'occupe de vous, de toute façon.
C'est la 4e République peu améliorée.
C'est un discours gaulien que tu nous tiens. Non, mais parce qu'on a eu le gaullisme aussi. Et le parti de Gaulle, il n'aimait pas les partis. Et aucun de ces partis ne s'est appelé parti quelque chose. C'était toujours rassemblement, tout ça.
Oui, mais justement moi, suis... on prend parti dans la société dans laquelle on vit. Et la partie... c'est toi qui le disais, le mot communisme avec ce commun, ce vivre ensemble.
C'est les questions d'après. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale avec Bernard Lavillier, Les Mains d'Or.
Et voilà, ça fait référence à la casse de l'outil de la sidérurgie. Et je trouve que c'était
un
bien.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles. Tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore l'acier rouge avec mes mains d'or. Travaillez encore, travaillez encore. Acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délivre ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
De retour sur RLP, avec notre invitée Violette. Donc on va maintenant rentrer dans ce que le Parti communiste a de plus profond, c'est son idéologie. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais définir l'idéologie du Parti communiste? Si tu ne peux pas définir l'idéologie, mais au moins les enjeux... les intentions qu'il y a derrière le Parti communiste, c'est quoi en 4-5 mots?
Enfin, les enjeux, je veux dire que ce qui nous est commun, défendre ce qui nous est commun, l'intérêt collectif, et qui n'est pas une addition d'intérêt personnel, d'intérêt privé. L'intérêt collectif.
Ah, c'est intéressant, oui, ça.
Oui. Je pense que ça, c'est la paix.
Est-ce qu'on peut approfondir cette idée-là, la nuance que tu viens de faire, entre l'intérêt collectif qui n'est pas un assemblage d'intérêts...
Oui, ce n'est pas une addition.
Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus?
Mais l'intérêt collectif, ça peut être même en contradiction avec son propre intérêt personnel. Mais c'est ce qui rend service à la majorité de la population.
Est-ce qu'on peut dire que ça n'est pas du consensus, mais plutôt du besoin général?
C'est du besoin général.
D'accord.
Du besoin général. Et donc ce besoin général, il faut... non seulement l'imposer, mais il faut le financer. Donc voilà, c'est aller chercher le fric. Ça fait partie des bagarres du Parti communiste aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que
le commun... Mais c'est la paix. Il y a un temps de guerre, et on voit pourquoi on a des bellicistes, des dirigeants bellicistes un peu partout en Europe et ailleurs, sauf quelques-uns. Mais parce qu'en temps de guerre, il n'y a pas de progrès social. Tout va sur l'économie de guerre. On voit bien en France. Le matraquage sur la dette, que ce soit les petits qui doivent encore se serrer la ceinture pour aller financer la guerre, parce que la France finance la guerre en Ukraine, mais finance également des armes pour Israël.
Oui.
Je dis, eh oui, eh oui, non, mais à un moment donné, si on demande la paix, la paix, la paix, eh bien, il faut avoir une économie de paix. Et c'est d'abord réduire l'économie de guerre.
Est-ce qu'il y a d'autres intentions ou enjeux ?
Le progrès social.
Progrès social.
L'écologie, mais nous sommes un parti écologique. Quand on dit le mix énergétique.
Oui, d'ailleurs, vous avez voté pour le nucléaire.
Oui, mais par
est-ce que
contre,
ça rentre dans ton idée de l'écologie ?
Mais le nucléaire civil, oui. Mais par contre...
Excuse-moi, à cette occasion, notre première émission, on l'avait fait avec Julien. Du PC.
Oui.
Et donc, lui était pro-nucléaire contre un écolo hyper anti-nucléaire, et puis moi toujours aussi caustique.
Ouais, ouais.
Et ça avait été une très bonne émission, c'était bien entendu avec Julien, parce que moi j'étais plutôt aussi pro-nucléaire dans le sens où c'était un mal nécessaire. Voilà, j'avais appelé ça le mal nécessaire en attendant d'avoir autre chose.
Mais c'est dans le volet.
Mais je vais expliquer, moi, pourquoi.
Dans le volet écolo
Moi, je me suis battue avec, dans le conseil municipal auquel je suis, contre une ferme photovoltaïque à Razac, sur des terres agricoles, cultivées et cultivables. On aurait mis à paître quelques moutons, et puis on a dit, c'est l'agri-voltaïque.
Je rigole parce qu'on a reçu la semaine dernière un représentant du monde paysan qui nous a parlé.
Exactement, il nous a mis en alerte là-dessus.
Ouais.
Mais parce que ce que produisaient ces 34 hectares de céréales, etc., on va aller les acheter où ? Non, mais le problème, c'est ça.
Ouais, oui.
Pour un mégawattheure d'électricité, une centrale nucléaire, c'est 1 km². Et à chaque fois, vous multipliez par 10 ou par 100 quand il s'agit du photovoltaïque ou des éoliennes.
Ah oui.
Donc ça se met sur où ? Eh bien, on défriche dans les Landes.
Mais donc c'est ça, ça va plus dans le volet écologie,
défendre
le nucléaire pour les communistes.
Et parce que l'énergie qui est délivrée par le nucléaire est moins chère. Et bien sûr, il y a Flamanville, etc., qui n'arrive pas à éclore, même si on nous dit bientôt. Mais avec la fusion nucléaire qui est utilisée, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est inépuisable. Inépuisable. Et il y a de moins en moins de déchets, puisque les déchets seront compactés et serviront également à l'énergie. C'est ça.
Est-ce que dans le Parti communiste, il y a des intentions autour de l'éducation globale ou un impact éducatif sur les populations ?
Nous sommes pour une éducation populaire. Populaire et également laïque. Je crois que ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Public. Et quand j'entends le maire qui dit la gratuité maintenant, surtout, c'est fini. Est-ce que ça veut dire la remise en cause de l'éducation gratuite ? Ça veut dire qu'encore on va mettre de côté, stigmatiser, se démunir. Voilà. Non, mais nous avons. Alors, le Parti communiste a, pendant des années et des dizaines d'années, travaillé cette question de l'éducation. L'éducation de ses militants.
Oui.
Moi, par exemple, j'ai adhéré en 72, mais en 71, j'étais aux Jeunesses communistes. Ça a été mon engagement. Moi, c'est un engagement international. C'était la libération d'Angela Davis pendant la guerre du Vietnam. 70, 71, avec mes copines, on faisait des sous-verts qu'on allait vendre partout dans Saint-Léon pour avoir des sous pour libérer sous caution Angela Davis. Ça commence ça. Mais après, 72, Et même 61, je crois que j'ai fait une école élémentaire du Parti communiste au château de Montreuil. J'ai fait après une école fédérale, une école au niveau des militants de la Fédération de la Dordogne. Et j'ai fait une école centrale d'un mois, en 75. Et en 80, l'école centrale de 4 mois, quand j'étais permanente du Parti communiste. Et c'était pour nous, et on n'apprenait pas que Lénine, etc. C'est-à-dire qu'également, l'esprit de contrariété, de contradiction, les éléments... C'est non seulement travailler les idées... mais pouvoir combattre les idées des autres.
C'est vrai qu'on ne devrait peut-être pas le dire à la radio, mais je vais le dire quand même. Mais dans les mouvements que vont être le Parti communiste ou la CGT, il y a une très bonne formation sur la communication et l'écoute active. Ouais. Ce qu'on appelle l'écoute active.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Tu vois, je te voyais prendre des notes et rebondir. Il y a une très, très bonne formation sur la communication. Et je pense que les autres partis n'ont pas cette qualité au sein de leur mouvement. Ils n'ont pas le savoir-faire pour former les gens à l'écoute.
Tout à fait.
Ça coupe beaucoup moins la parole quand on va à des réunions du Parti communiste que chez les socialistes ou que chez les gens plus les LR. Quoi.
Ouais.
J'ai une petite question d'ordre théorique, voire théologique. Le trotskisme, c'est du communisme ?
On a souvent dit que le trotskisme, c'était la maladie infantile du communisme.
Dis pas ça, parce que j'ai un livre à conseiller sur Frida Kahlo, juste à la fin. Donc...
Non, après, je pense que on peut, comment dire, avoir un attachement au trotskisme, parce que c'est... Mais bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis communiste. Je suis devenue communiste, et c'est Aragon qui disait je deviens communiste tous les... Enfin, je réadhère au Parti communiste tous les matins. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Et là où je milite, là où je suis, j'essaie. J'essaie de faire partager également cette envie de mieux, etc.
Ok. Autre petite question. En quoi le mouvement, le Parti communiste aujourd'hui, en quoi il serait utile pour la population ?
Il est utile aujourd'hui pour tout, pour reconquérir tout ce que les gouvernements successifs ont pris. Je parle des nationalisations tout à l'heure. Mais les nationalisations telles qu'elles ont été définies dans le programme du Conseil national de la Résistance, c'était une gestion collective entre les représentants du personnel, l'État et en 47, c'est par à la faveur donc de la guerre froide, et quand les communistes sont partis du gouvernement, on a enlevé ce volet de gestion commune, de gestion partagée.
Ouais.
Mais c'est aujourd'hui, quand on parle, nous, de renationaliser un certain nombre de secteurs indispensable de notre vie. Moi, je parle à l'eau.
En gros, ce que tu essayes de mettre en avant, c'est ça nous permettrait de récupérer la main sur peut-être de l'industrie ou des choses comme ça.
D'ailleurs, la campagne du Parti communiste sur les et de ses alliés pour les élections européennes, c'est reprenons la main.
Ouais, c'est reprendre.
Reprenons la main sur la souveraineté alimentaire, reprenons la main sur la souveraineté énergétique, sur la souveraineté démocratique.
D'accord.
Démocratique, car effectivement, 2005.
Mais comment on...
La Dordogne a voté massivement contre le non au TCE. Par contre, et la France a voté. Et 2 ans après, elle nous dit non, hop. Au traité de Lisbonne, et ils ont fait voter 3 fois l'Irlande, parce qu'ils avaient mal voté une première fois, une deuxième fois, 3 fois.
Oui, parce qu'ils sont idiots, les Irlandais.
Ben, comme nous, on est un peu idiots, quoi. C'est pas ce qui est bon pour nous. Alors
oui,
tout ça, il faut... Alors, sur les nationalisations, la reconquête, la réindustrialisation de façon écologique, comment dirais-je, nos territoires. Avoir la main sur nos territoires.
Parce que tu penses que les communistes seraient plus à même de remettre de la démocratie locale, de remettre du pouvoir de la population sur, je ne sais pas, sur l'industrie de son territoire
ou juste le travail,
tu penses ?
Complètement.
De quelle manière ils feraient ça ?
Regardez. L'exemple, tout à l'heure vous me disiez des exemples de communisme, vous me posiez la question tous les deux. Regardez quand il y a eu la bagarre d'éléphants Teddington, du côté de Marseille, où les salariés se sont battus 1336 jours. D'ailleurs, aujourd'hui, ils font des infusions, ils font du thé qu'ils ont appelé 1336. Mais je veux dire, cette coopérative qu'ils ont créée, c'est du communisme.
Oui.
Il y a dans le Tarn, je crois, ils ont créé une coopérative parce que leur boîte, elle est fermée. Et maintenant, elle est florissante.
D'accord.
Cette coopérative.
Par des systèmes de scope, aider les entreprises en scope, par exemple, ce serait un des moyens.
Mais également, donner du pouvoir au comité d'entreprise, qu'on appelle plus maintenant comité d'entreprise. Mais ça, c'est ma formation. Mais donner du pouvoir aux travailleurs. Qui ont le regard sur les bilans d'entreprise, non seulement le regard, mais également qui peuvent intervenir. On aurait un peu moins de choses qui sont aujourd'hui à déplorer.
Le poète a toujours raison.
Donc, à nouveau une pause parce qu'on est des feignants, avec un petit morceau de Jean Ferrat, La femme et l'avenir de
l'homme. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
RLP.
Et revenir dans mon intro, dans mon petit speech, je parle du pragmatisme des communistes à l'échelle communale. Et je vais donner un exemple. J'habitais donc au Murau, les années 80, Roger Le Toulec, maire communiste, et il décide, dans les années 80, je précise bien, qu'il allait mettre à disposition des poubelles pour trier le verre et les cartons, papier-carton, le tout étant ramassé par les employés par les communaux, étant revendu par la commune qui engrange donc les bénéfices, et cet argent est utilisé pour les œuvres sociales telles que les classes de neige, et pour tout ce qui est enfance et tout ça. Franchement, ça nous coûtait quoi? Simplement de faire le tri entre... Aujourd'hui, on a...
Le SMD3.
SMD3, voilà.
L'horreur.
Voilà. Donc ça coûte l'horreur. Très cher, ils foutent rien, c'est fait n'importe comment...
Tout voilà. À fait.
Et un truc, mais et on est en 2024, et moi je te parle dans les années milieu des années 80. Ça, c'est du pragmatisme. Ça, c'était des choses qui m'ont touché.
Et voilà, moi je pense que.
J'ai l'impression que tu vas prendre ta carte au parti.
Non, il n'y a aucune chance là. C'est... Non, je peux dialoguer tout à fait. Mais...
D'accord, je sens quand même que Violette t'a touché.
Je ne sais pas, mais moi je pense que aujourd'hui nous pouvons encore exister fortement et avoir, avoir la force de frappe pour rassembler autour de nous sur ces positions-là, sur la sécurité sociale, il faut se battre pour. Je parlais tout à l'heure de la santé, se battre pour des centres publics de santé. Donc il y en a au niveau du département, il y a Bergerac, il y en a d'autres. Et ce sont des choses, enfin, de bon sens quand même. Enlever enlever les biens communs des griffes du capital, il faut quand même pouvoir... je pense que ça peut
Est-ce qu'il y a dans le parti communiste d'aujourd'hui des outils nouveaux? Parce que là, on sent bien dans ton message et ton envie, bon, la lutte continue. Hein, Mais est-ce qu'il y a des outils nouveaux qui sont amenés par les communistes?
Ben, les outils nouveaux, ce sont tous ceux, l'informatique, les réseaux sociaux.
Mais spécifiques aux communistes. Est-ce qu'il y a des
outils militantisme. Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'ai parlé avec, de tout ce qui est, il ne fallait plus militer comme avant, il faut maintenant militer autrement. Mais je ne vois pas comment militer autrement sans militer. Donc, continue à militer. Il n'y a rien de tel que... Si on s'était appelé au téléphone pour avoir ce débat, il aurait été infect. Mais d'être ensemble, de pouvoir partager des choses, se contredire, c'est quand même mieux que par téléphone ou par mail interposé. Je pense que ça, c'est important. Et d'aller faire le porte-à-porte, moi, ce que je fais, d'être sur les marchés, c'est ce que je fais. Ça nous apporte énormément. Parce que ce n'est pas simplement donner. C'est recevoir.
Mais au sein, alors, s'il n'y a pas d'outils vraiment nouveaux, est-ce qu'au sein du Parti communiste, il y a des choses qu'il faut changer? Pour toi, là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut retirer? Tu disais tout à l'heure, Robert Rue, il a retiré les sections, enfin les systèmes de sections.
Revenir à une organisation de proximité.
Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait retirer dans le fonctionnement du PC, qui sont vieillissants ou qui ne servent à rien, qui n'ont pas de...
On les a déjà retirés, tous ceux qui nous avaient, qui semblaient nous porter atteinte. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à des choses essentielles. L'organisation de proximité, être avec les gens, les salariés, ça va être difficile, parce qu'il y a eu de la casse. Il y a de la casse industrielle, mais la casse industrielle, ça a été aussi casser les collectifs. Les modes de pensée collective.
Et les filières. D'éducation et tout pour produire.
Tout à fait. Donc, c'est tout ça qu'il faut reconstruire aujourd'hui. Okay. Voilà. Et donc, on aura besoin, y compris de vous. Mais pas forcément pas forcément comme communiste, mais travailler ensemble. Moi, je pense que travailler ensemble sur des questions qui nous sont chères, c'est important. La question de la paix, j'ai pas suffisamment dit des choses. Mais aujourd'hui, avec les guerres qu'il y a partout, parce qu'il y a les deux qui crèvent les camps, ce qui se passe à Gaza et en Ukraine. Mais le monde est sous une poudrière. On prend tous les continents. Tous les continents, il y a des conflits qui sont en émergence ou qui vont éclater ou qui éclatent. Mais si on ne remet pas sur le devant de la scène ce qui nous est commun, parler, la diplomatie, et la France avait une diplomatie des plus importantes du monde et qu'on a mis sous les ténoirs. Mais une guerre, ça s'arrête comment? Et nous en avons eu en France et en Europe. Ça s'arrête comment? Un, par la reddition d'une des parties, et deux, la négociation. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de troisième voie. On peut nous dire, on peut ajouter des armes et des bombes. Au bout de compte, c'est dans un mois, dans 10 mois, dans 10 ans, il faudra se mettre autour d'une table.
D'accord. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je l'ai résumé un petit peu avant l'heure, hein, en disant la lutte continue, en fait, pour tout le monde, pas que pour les communistes, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, mais parce qu'il faut chacun... Il faut se battre pour son gagne-pain.
On a un petit moment à la fin de l'émission qui est plutôt de la recommandation sur des livres ou des musiques. Est-ce que toi, tu aurais des livres, ou Stéphane ?
Honneur aux dames.
Merci. Que tu aurais des...
Non, moi, le Parti communiste est un parti qui a publié beaucoup, beaucoup de choses.
T'as pas le manifeste du Parti communiste ?
Mais il faudrait le relire, effectivement. Il faudrait le relire. Je l'ai pas. Mon petit-fils l'a acheté. Ouais. Et mon petit-fils, là.
Stéphane, tu voulais en donner, pardon.
Oui, alors j'ai deux choses. L'Éternel, j'avais déjà donné à d'autres émissions, Jean Touchard. Les gauches en France, ça date un peu,
oui, mais
ça reste une référence. Il y a eu un chapitre qui a été rajouté post-mortem, parce que l'auteur était décédé. On ne le trouve plus en œuvre, je ne crois pas, mais on le trouve d'occasion très facilement. Et il y a une chose, et ça fait, je l'avais fait aussi pour le PS, parce que ça concerne les deux. D'abord, prenez un abonnement à Madeleine, site de l'INA. Vous payez 40 euros par an. Et vous avez accès à tout ce que les feuilletons français, les séries françaises, les débats françaises qui ont été faits à l'époque de l'ORTF et tout jusque dans les années 80 à 90. Vous avez tout ça, c'est 40 euros par an. Et dedans, vous avez la remarquable émission qui est stockée, Rembob Ina.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y en a une qui portait sur le congrès de Tours, qui s'appelle Le Grand Fossé, dont le scénario avait été écrit par Ellenstein, donc un communiste à l'époque.
Tout à fait.
Et après, qui était donc à l'époque, c'est une émission qui s'appelait Les Dossiers de l'écran, où il y avait un débat Jospin contre Georges Marchais. Donc ce débat est aussi disponible. Et en plus, il y a une exégèse du débat, sans Georges Marchais puisqu'il nous a quittés, mais avec Jospin. Et c'est très important, c'est là-dessus que j'ai repris ma définition. En fait, ça vient pas de ma petite tête, mais quand j'expliquais que c'était pas forcément révolutionnaire et non révolutionnaire, que c'était... La différence a été sur l'organisation et puis
voilà. Les objectifs aussi, hein? Les objectifs, le programme, les objectifs.
Oui, oui. Et franchement, ça coûte 40 euros par an, je précise bien, et vous en avez, voilà.
Ok. Moi, rapidement, c'est des bandes dessinées, la boîte de petits pois, aux éditions Une Case en Moins, que j'ai trouvé assez intéressant. Frida Kahlo, que j'ai pas fini de lire, mais voilà, c'est qui fait le petit rappel à Trotsky, aux éditions Delcourt. Servir le peuple, aux éditions Sarbacane, excellente BD, Servir le peuple. La mort de Staline, avec un dessinateur qui est nourri, pour ceux qui connaissent le dessinateur, qui a un graphisme excellent et qui reprennent des faits d'histoire, donc sur la mort de Staline, et on voit le bazar... que ça a été quand le chef meurt et qu'il n'y a pas vraiment d'organisation collective, qu'on attend l'aval du chef. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe?
À l'époque, en 1953, il y a eu à la fédération, dans toutes les fédérations du parti, la garde autour du portrait de Staline.
Donc la mort de Staline aux éditions d'Argo, et puis j'ai parlé... du manifeste du Parti communiste, qui peut rester intéressant pour les gens qui veulent s'instruire sur un type d'idéologie, parce que c'est une idéologie. Je vais vous remercier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez donner ? Non.
Non, okay, non, non, mais moi je vous remercie aussi.
Eh bien, merci à toi, Violette, d'avoir été notre invitée.
Nous avons passé un agréable moment en ta présence.
Ouais, merci.
Très intéressant. Ouais. On espère que ça a été aussi agréable pour toi que pour nous. On va te souhaiter bonne continuation. On va dire au revoir aux auditeurs, aux auditrices.
Au revoir à tous. Merci encore.
Au revoir.
Et l'odeur. Big Bang
politique. Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre. Perlimpinpe.
Pas de visage. Pas de parti. Et pourtant.
Le sexe. C'est de la poudre.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant.
Le sexe.
Il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours.
Cet adversaire. C'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.